Patrick, il est dans la surface des TV TCL chez Electrodépôt.
C'est clairement du TCL. 190,5 cm Google TV 4K Ultra HD à seulement 799€. Les prix bas chez Electrodépôt, bien sûr.
Oh, quelle qualité d'image! Oh, il rentre dans la zone avec son caddie!
Oui, il la met sur son caddie et c'est une passe décisive!
Passage en caisse, c'est une TV TCL à seulement 799€ chez Electrodépôt.
Vivez de grands moments chez Electrodépôt en magasin ou sur electrodépôt.fr avec TCL.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Il va falloir qu'il bosse. Je suis déjà content là. Philippe, il a déjà convoqué demain matin à 8h. Et encore, il est gentil. Parce que moi, ça serait demain matin à 6h. Et c'est honteux ce que j'ai aujourd'hui. Je me réserve parce que je vais exploser.
Putain de merde. Sérieux.
Entraîneur, formateur, écoute l'after. Les joggeurs, les plongeurs, écoute l'after. En vélo, en scooter, j'écoute l'after. Attaquant, défenseur, écoute l'after. Même Rocco, le grand acteur, écoute l'after. Au micro, c'est Fazer, c'est Fazer.
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after est sur RMC comme tous les soirs en direct, évidemment, en direct sur la chaîne YouTube également de l'émission After-Foot. Vous écoutez l'after par les podcasts de France, votre espace de liberté à vous les supporter. On vous attend ce soir au 32-16 avec Daniel Riolo qui est là. Salut Daniel.
Salut les amis.
Et avec Stéphane Guy. Salut Stéphane.
Citoyen, bonsoir.
L'événement ce soir, messieurs, c'est le grand flou au Racing Club de Lens. Des dirigeants qui s'en vont, un coach qui veut partir, mais le club ne veut pas le laisser s'en aller. On fera un point tout à l'heure des infos, débat à 23h sur ce qui se passe à Lens en coulisses, pour reprendre une expression célèbre de Kevin Diaz, un grand chambardome. Voilà.
Se prépare.
Se prépare. Prépare. Évidemment, supporters de Lens, on vous attend 32-16 parce que les supporters commencent à se positionner. Donc ce sera tout à l'heure. D'ici là, dans quelques secondes et au lendemain de la finale de la Coupe de France, Stéphane veut donner son avis sur le niveau inquiétant de Mbappé à 19 jours de l'Euro. Oui, 19 jours.
19 jours. C'est encore plus inquiétant, tu vois, j'avais pas vu ça sur ce tableau-là.
Oui.
19 jours.
Et puis
sinon, il t'inquiétait pourquoi? Pour les vacances? T'avais pas que tu sois pas en forme sur un yacht ou en boîte de nuit?
Ah bon, ouais, aujourd'hui, il était au Grand Prix de Monaco.
Au niveau boîte de nuit, je pense qu'il est en forme.
Parce que c'est pas mon inquiétude. Si tu penses pas à l'euro, en quoi c'était inquiétant?
Bien sûr, évidemment. Je voyais l'euro dans 4-5 semaines, mais là, c'est dans 19 jours.
J'ai eu peur. Je comprenais pas ton inquiétude.
Et puis, on fera le point sur le mercato à venir de Paris, notamment concernant le poste de gardien de but. Et puis, on aura aussi avec nous, tout à l'heure, en fin d'after, vers 23h30, Fred Hermel et Johan Crochet, parce qu'il y a des matchs ce soir en Espagne, en Italie.
Un petit mot de Brest aussi, si tu veux.
Ah oui, au plaisir.
Parce que nous avons enregistré tout à l'heure, mais Eric Roy était dans le RMC Poker Show.
Oh.
Oui.
Oh, mais là, il t'a pas parlé de Lodoiron et de sa triado.
On a parlé foot, parce que quand même, mais tu sais qu'il adore le poker, Eric. Mon rêve est d'aller à Las Vegas pour les championnats du monde.
Le golf, le poker, il pense un peu au foot de temps en temps.
Écoute,
on a des entraîneurs qui ont été stigmatisés pour moins que ça.
Il m'a dit qu'il se reposait et qu'il avait fait une petite partie hier avec des amis à lui.
Il le mérite.
Il adore vraiment jouer au poker. On a joué ensemble et tout. Voilà. Mais cette année, justement, ça lui a manqué parce qu'il était tellement à fond dans la saison, il n'a pas pu jouer du tout. Et on a quand même parlé un petit peu de sa saison et de l'avenir. Donc on en parle, je vous dirai un petit mot.
Non, mais c'est intéressant, la blague sur le poker et sur le golf, parce que ça montre tout simplement, même s'il y a évidemment, il n'a pas dû jouer, avoir beaucoup de temps pour jouer au poker, mais ces hommes-là ont aussi le droit, évidemment, d'avoir des hobbies et de sortir un peu la tête du foot sans que ça nuise aux performances de leur équipe, contrairement à des stigmatisations
qui
n'ont pas lieu qui ont été faites.
Après, le problème, c'est que quand ils ont des mauvais résultats,
t'as l'habitude de dire
ouais, mais il passe sa vie à jouer au poker ou à jouer au golf.
Ouais. Oui, bon, c'est un peu la bêtise qui s'exprime là. C'est des raccourcis un peu idiots.
Les matchs en cours, c'est la mi-temps entre Séville et le Barça. Dernier match de Xavi ce soir, un partout. Fred Hermel sera avec nous tout à l'heure. Et puis les matchs en Italie ce soir, la dernière journée. Bon, évidemment, il y a plus beaucoup de suspense. Hein, mais enfin, sachez qu'il y a un partout entre Empoli et la Roma après 57 minutes. Qu'il y a 2-2 entre Vérone et l'Inter après 3-2 même. Ah non, 2-2 pardon, 2-2 entre Vérone et l'Inter après 59 minutes. Et puis tout à l'heure, l'Atalanta a encore gagné. L'Atalanta a battu le Torino 3-0 et donc va bel et bien terminer parmi les 4 premiers du championnat d'Italie. Naples jouait également, Naples-Lecce 0-0. Et puis c'était également la finale de la Coupe du Portugal ce soir. Porto a gagné après prolongation 2-1 face au Sporting. Voilà.
Pas de doublé pour le Sporting.
Je sais qu'hier soir, Daniel,
Porto a gagné.
Oui, je viens de le dire.
Porto a fini sa saison. Donc Sergio Conceição est définitivement sur le marché. Et maintenant, il va pouvoir discuter. Parce que notamment avec l'OM, puisqu'il fait partie de la shortlist de Longoria et Benatia, tous ceux qui disaient, qui parlaient et tout ça, non, on lui laissait terminer la saison.
Entre Porto et l'OM, est-ce que ce serait un gap, un level up pour Conceição?
Moi, je n'en suis pas là pour l'instant.
Un gros coup pour l'OM, en tous les cas.
Je suis juste de dire que ce serait un gros coup pour l'OM et que l'OM disait, non seulement nous n'avons pas parlé avec lui, mais si on avait parlé avec lui, ce serait même pas bon signe, parce qu'un entraîneur qui n'a pas terminé sa saison, qui doit jouer une finale de coupe, s'il était déjà en train de penser à la saison suivante et tout ça, on trouverait que c'est pas un bon signe.
Pas du pipeau complet, ça non plus, Daniel?
Moi, je
crois pas une seule seconde à ce discours-là. Tu vois, je pense que s'ils sont intéressés par Sergio Conceição, ils ont évidemment déjà eu des discussions directes ou indirectes sur sa situation. Voilà. Faut arrêter de nous prendre pour des bonnets quand même.
Les vraies discussions vont pouvoir commencer maintenant. Je te laisse juger de qui est bonnet ou dit qui n'est pas bonnet. Moi, je te transfère une info. Tu fais ce que tu veux avec.
Permettez-moi de faire un tour par Roland-Garros, où c'est la grande quinzaine d'Éric Salio qui démarre aujourd'hui, messieurs, dames. Sachez qu'il est évidemment...
C'est la grande quinzaine de tout le monde, je suis à fond.
Ah bon?
Ah oui, évidemment.
T'étais à fond sur Paquet tout à l'heure?
Non, Paquet, je m'en foutais un petit peu.
Moi, j'ai appris que c'était 80 000 euros quand tu passais le premier tour.
Bah, bien sûr.
Donc, c'est monnaie Paquet.
Il y a
Paquet. Monnaie Paquet maintenant.
Non, mais ça change la vie de beaucoup de petits joueurs comme Paquet.
Et bravo,
ça peut également changer la vie de Corentin Moutet, un premier tour en Grand Chelem en termes de points et en termes d'oseille. Je te rappelle que les joueurs de tennis sont des auto-entrepreneurs et que Moutet est en train de faire les premiers tours qu'on adore à Roland-Garros, le grand spectacle, le soir.
Vu le plafond de revenus des auto-entrepreneurs, je pense qu'ils ne le sont plus.
Écoute, pour certains joueurs comme ça, ça roule pas sur l'or. Hein. Je te garantis que c'est très très important. Et en plus, il est en train d'offrir au public du Simone Mathieu un match comme les gens adorent au premier tour.
Merci Eric.
La grande folie.
Merci Eric pour ce direct.
En fait, Daniel, tu voudrais être Eric Salio. Ton vrai kiff, c'est ça en fait.
Mais ouais, mon métier, ce serait mon.
Est-ce que tu voudrais être Daniel Riolo, Eric? C'est ça la question.
Bon, on pourrait échanger. Il aime le foot.
Il y a des côtés intéressants, mais y a des petits désavantages aussi.
Les horaires, tu veux dire?
Entre nous, Eric Salio, voilà.
En gros, j'ai connu Eric Salio faisant les comptes rendus du FC Flair.
C'est regarder des matchs de tennis et kiffer. C'est la vie de rêve, en fait.
Voilà, non mais là c'est vrai qu'il a raison Daniel.
Nous,
le Jarry Moutet sur le Mathieu, c'est bon, on s'y attendait, on savait que ce serait incendiaire parce qu'il s'était joué cet hiver et Moutet avait été copieusement sifflé par le public chilien et donc il avait annoncé la couleur sur les réseaux sociaux en disant je veux une belle ambiance. Et ben quand il est entré sur le court, Jarry s'est fait siffler et surtout Moutet lui a fait l'amour pendant 1h30, 6-2, 6-1, c'est en train de tourner. 4-2 pour le Chilien, mais Moutet fait des trucs hallucinants. Je crois que c'est le mec le plus doué du tennis français. Il a la plus belle main du tennis français. Et est-ce qu'il va parvenir à tenir son propre rythme? Ça, c'est la grande question.
Ouais,
parce que
c'est,
Jarry,
c'est pas n'importe qui. C'est gagner en 3-7, c'est pas facile pour lui.
Voilà, peut-être que. Je sais pas.
Et puis l'autre, va pas se déchirer pendant 3 heures quand même.
Eric,
Jarry, c'est un client.
Gilbert, je sais pas d'où tu tires des infos, mais c'est pas 80 000, hein, c'est 73. Hein.
Ah, j'avais arrondi.
Franchement, Eric, c'est pas comme s'il avait dit une énormité.
Il faut faire attention à ce qu'on dit.
Je mets 5
de Jarry au troisième.
Tout à l'heure, j'ai écouté le match de Richard Gasquet là, à la télé. Est-ce que toi aussi, tu emploies la célèbre expression que le commentateur de la télé a employée à de multiples reprises, notre Richard national?
Moi, je dis Richie, tout simplement.
Ah, tu dis Richie. Il dit pas notre Richard national.
Et mon grand regret, c'est de pas avoir vécu le match en vrai, puisque notre cabine est installée sur le central. J'ai vu la fin du deuxième sur le court. Mais sinon, non, c'était un grand moment, vraiment un grand. C'est l'une des plus belles histoires de sa carrière à Roland, tout simplement. À 37 berges, respect. Hein. Et il va peut-être jouer Sinner au prochain tour.
Ah. Et le prize money au deuxième tour, c'est combien?
110.
Le perdant, il prend un peu d'oseille quand même?
Bah oui, celui du premier match.
Non, mais il reprend pas un peu pour avoir joué à deuxième tour.
Par exemple, s'il joue en 5-7.
S'il faisait du foot, il reprendrait un peu d'oseille à un moment donné, quand même, dans le système. Ils sont cons, ces tennismen.
Merci, Eric. À tout à l'heure.
Tout à l'heure, oui.
Régale-toi, Eric. Régale-toi.
Alors,
c'est ta quinzaine.
Ouais. Avant qu'on écoute Stéphane sur Mbappé, j'aimerais quand même qu'on revienne avec 24 heures de recul sur le factuel de l'histoire des supporters hier, parce que bon, évidemment, moi, je veux pas revenir sur la bêtise des mecs qui se battent et qui ont des barres de fer ou des couteaux dans le bus. D'ailleurs, petite précision. parce que je sais que sur le Direct Studio, il y a des questions là-dessus. Non, les supporters, quand ils rentrent dans un bus pour partir en déplacement, ils sont fouillés par personne. Pour la bonne et simple raison que c'est eux-mêmes qui affrètent le bus. Et que c'est des cartes de tourisme, ils appellent la compagnie de bus.
Est-ce que c'est eux ou est-ce que c'est le club? C'est déjà une première bonne question que tu poses, Gilbert.
Ce sont les groupes de supporters qui affrètent les bus.
Oui, mais dans les accords entre club de supporters et club, qui paye les bus?
Ce sont les groupes de supporters qui payent les bus. Parfois, il y a des exceptions, parce que parfois, certains clubs disent, tiens, pour ce déplacement, on prend en charge, par exemple. Bon, pour une finale ou quoi que ce soit.
C'est pour ça que je te pose la question sur ce match précis.
Et alors, autre élément, non, mais faut quand même, c'est important de le savoir. Donc, personne ne fouille. Hein, donc, effectivement, n'importe qui prend n'importe quoi. Deux, faut quand même savoir que quand un match se prépare, il y a des réunions systématiques dans les préfectures qui reçoivent. Et lors de ces réunions, il y a prise de contact avec les compagnies de bus. Donc, un chauffeur, par exemple, c'était le cas hier soir, un chauffeur, c'est pas le patron du groupe de supporters qui dit au chauffeur, tu prends telle autoroute. C'est la police en amont qui a dit au chauffeur.
Mais ils étaient escortés, les bus.
Voilà. C'est la police en amont qui est en rapport avec les chauffeurs par téléphone, qui dit, voilà l'itinéraire, on sait tout à l'avance, tout est cadré. C'est important que je vous dise ça.
Les bus qui se sont croisés, les bus de Lyon étaient escortés.
Oui. Non, mais c'est important que je vous dise ça.
Par les forces de l'ordre.
Ça veut dire que ces fameux bus, on a dit, ils sont allés sur la mauvaise aire. Bah, c'est bien qu'ils ont eu des consignes pour y aller sur la mauvaise aire. C'est pas le chauffeur tout seul qui s'est dit, tiens, je vais passer par là. Parce que je sais pas, Waze m'a dit de passer par là. Non, c'est pas comme
bien
ça que
sûr,
ça se passe.
Mais
c'est important de préciser.
Je
finis sur un truc quand même. Il y a aussi, parce que bon, en fait, moi, évidemment, les supporters, on condamne, tout le monde condamne. Mais enfin, une nouvelle fois, on constate quoi? Qu'après la finale de Ligue des Champions, après le fameux Marseille-Lyon, où on a fait prendre le mauvais itinéraire au bus lyonnais, au milieu des travaux et des pavés qui étaient faciles à prendre et à jeter, là, en fait, il y a eu aussi souci d'organisation. Même si ce soir, les policiers essaient de dire que non, ils comprennent pas comment c'est. Bah, si, en fait. Après, il y a plusieurs organes qui rentrent en ligne de compte. C'est-à-dire que les policiers qui étaient sur leur autoroute, ils ont vu arriver les bus eux-mêmes, ils ont dit, mais qu'est-ce que foutent ces bus-là? Mais ces bus-là, ils avaient bien eu des consignes de quelqu'un d'autre d'y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Et troisième chose.
Non, moi, je vois pas ce que tu veux dire.
Troisième chose.
Non, mais je ne rigole pas. Non, je ne vois pas ce que tu veux dire.
Tu comprends bien qu'il y a eu un bug dans l'orientation de ces bus qui n'est pas le fait des groupes de supporters.
En fait.
Qui est le fait des forces de l'ordre.
Non, je ne supporte pas cette remarque.
C'est
je ne supporte pas cette explication. En fait, j'en ai rien
vérité,
à cirer tout ça. Non.
Ben,
j'en ai rien à cirer tout ça. Non, mais je m'en fous.
Attends, et dernière chose.
Il y a rien qui justifie la sauvagerie.
Mais évidemment.
J'en ai rien à foutre, moi, que ce soit orienté.
Je l'ai dit en préambule.
Ben, je m'en fous. Il y a rien d'autre que le préambule.
Non, mais c'est vrai. Moi, c'est aussi pour ça que je voulais
rien d'autre que
de couper, Gilbert.
Je n'en ai rien à cirer
dans des débats
techniques. De savoir s'il y a une déviation.
Ça compte quand même.
Il y aurait une déviation que les gens devraient se croiser et ne pas en arriver à ça.
Évidemment.
Et ben alors, donc le reste, je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. Je ne débattrai pas, ça m'intéresse pas.
Non, mais moi, je ne vais pas m'en débat.
Explique et moi, je regarde le tennis.
Troisième chose.
Non, mais par contre.
Troisième chose intéressante. Il y a un truc.
C'est la faute de la police maintenant.
Qui a dit ça? Je te donne du factuel, moi.
Je m'en fous du factuel. Le factuel, c'est des sauvages qui ont couru derrière d'autres sauvages.
Évidemment.
C'est comme depuis ce matin, j'entends. Oui, mais la bataille. En fait, hier, j'étais sur BFM entre 19h30 et 21h, entre 20h30, je sais plus. J'ai un moment. J'ai dit, écoutez, vous savez, on parlait du factuel et j'ai dit, au lieu du factuel, vous voulez que je vous dise ce qui va se passer dans les prochaines heures? Et j'ai décrit exactement ce qui allait se passer. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Les explications, la faute de la police, les communiqués des supporters pour accuser les uns des autres,
des clubs,
le monde du football,
des clubs,
le monde du football qui ne réagit pas,
qui ont communiqué.
Et les explications des sociologues gauchistes pour dire que c'est la faute du tout répressif. On a tout eu.
Ah, les sociologues, je ne les ai pas entendus, moi.
Sébastien Louis, classique, ah ouais, les sorties de la tanière. Après, on va avoir deux, trois journalistes et la mort moelle-neuve gauchiste aussi.
Il faut quand même dire que c'est
gauchiste, pas gauchiste. Bah si.
Genre, il ne faut pas sanctionner. C'est de la faute, c'est jamais de la faute des supporters. S'ils ont fait ça, c'est parce qu'il y a une mauvaise orientation et tout. Donc, moi, je m'en fous. Moi, je ne veux qu'une chose. Interdiction de déplacement du supporter, sanction, interdiction de stade. Basta, au revoir.
Nouvelle piste, les trains. Sachez qu'en Allemagne et en Angleterre, en Allemagne, par exemple, il y a eu un match de D2 récent, le Hertha Berlin est en D2, par exemple. Il y a eu un déplacement de presque 10 000 supporters d'un club adverse à Berlin. En fait, comment ils font les Allemands? Train affrété, négociation avec la compagnie nationale de train. Quand ils arrivent dans la ville, métro spéciaux, pam, tout est fléché, machin. Bon, en France, en fait, il y a des clubs qui veulent faire ça. Sauf que la SNCF, là, par exemple, Lyon, a fait faire un devis à la SNCF pour dire, bah tiens, allons-y en train, ce sera plus simple pour tout le monde. La SNCF a dit ouais, c'est 300 euros par personne, avec le billet de match quand même, hein, 300 euros. Donc évidemment, c'est hors de prix.
À l'échelle de budget de Lyon, c'est hors de prix.
Non, mais c'est à l'échelle des supporters.
Oui,
non,
bien sûr, mais à l'échelle du club de Lyon. Pour s'éviter justement ce genre de
soucis. Ah, mais ça, c'est si le club.
Non, mais justement, prenons ça, les clubs selon leur propre responsabilité.
Pourquoi pas?
Ils mettent de l'oseille à tort et à travers sur tout et n'importe quoi. Oui. Ils payent des troisièmes gardiens qui jouent pas un match, 50 000 euros par mois. Donc ils peuvent peut-être prendre en charge les frais de déplacement de leurs supporters pour que ce soit. Pour régler le problème.
Ils peuvent engager les frais pour réparer les bidons.
Aussi, ouais.
Que ce soit eux qui payent toute la sécurité et tous les dégâts.
J'espère qu'effectivement, les clubs vont payer pour le péage qui a été brûlé.
Alors là, les gars, pas le bus, c'est bien. Ils se défaussent en disant c'est pas nous.
Tant qu'on en sera effectivement dans la défausse de c'est pas moi, c'est lui, c'est pas là, c'est l'autre, c'est pas dans cette zone-là, c'était lui qui devait intervenir, etc.
C'est la faute au tour répressif.
C'est
la faute à ma grand-mère.
On avancera. Le bilan de l'année, terminer la saison de foot en France, Gilbert, sur cet événement-là, après tout ce qu'on a connu cette année à Marseille, à Nantes, etc. Nous, évidemment, on est des passionnés. On sait malgré tout, bêtement d'ailleurs, parce que on devrait, des soirs comme ça, on devrait couper la télé et puis dire, on s'y intéresse pas, on passe à autre chose. On s'est quand même intéressé au match, mais c'est proprement. Moi, j'ai rencontré des tas de gens aujourd'hui, ma pauvre maman, par exemple, qui me dit mais qu'est-ce qui s'est passé. Et les gens sont. Je ne sais pas si on se rend compte de ce soir, ouverture du 20h de TF1, le foot. C'est rare qu'il y ait le foot en ouverture du 20h de TF1. Pour ça,
les incidents.
C'est dramatique pour notre patient.
Tant que tu auras sur les plateaux pour expliquer, il y a deux sociologues qui parlent de foot et de ce genre de sujet-là. Ils répètent les mêmes conneries depuis 20 ans. Et tu sais, le pire, c'est pas qu'ils les racontent sur les plateaux, c'est qu'ils sont invités dans les ministères. Je sais, je les ai vus. On les écoute. Comme on écoute les représentants des associations de supporters qui ne représentent qu'eux-mêmes, ton ami, là.
C'est ça.
Il est déjà venu dans l'after, là, Renault, machin, là. C'est jamais de la faute des supporters.
Renault.
Et le gars qui représente l'association des supporters européens.
Oui, mais Daniel, tout le monde doit pouvoir avoir la parole.
Mais c'est toujours les mêmes. Il y en a quatre personnes qui sont reçues dans les ministères partout. Il n'y a que eux qui sont écoutés. Et ils racontent la même connerie depuis 20 ans.
Il n'y a pas de sac. Renan Evin est un représentant de supporters. C'est pas un sociologue. C'est pas un sociologue.
Donc, voilà. Je te dis que dans
Pierre Barthélémy, par exemple, c'est un avocat, c'est pas un sociologue. Eh ben
donc, te fais le tableau des personnes qui sont écoutées. Oui. Tout le temps, c'est Pierre Barthélémy, avocat des supporters, qui ne veut que combattre les déplacements. L'interdiction des déplacements. Et qui gagne souvent. Renaud Evin, représentant des supporters, c'est jamais de la faute des supporters. Sébastien Louis, sociologue. Nicolas Orcade, qui est quand même beaucoup plus objectif. Au revoir tout le monde. Ton sac, c'est même pas un sac, c'est un petit panier. C'est pas un sac, c'est un panier. Ils sont quatre. Ils sont tout le temps. Tu vas dans les réunions, machin, c'est que tu lis les journaux sur les sujets, c'est tout le temps eux. Ils racontent les mêmes trucs depuis 20 ans. Est-ce qu'on progresse? Non, on régresse. Est-ce qu'on a des idées nouvelles? Non, on fait rien. Voilà. C'est tout.
Alors juste, je finis. Donc le
bon. Moi, j'aurais
mon
bien
histoire
aimé,
de train en Allemagne. Penser. Tout s'est bien passé. Hein.
Tu sais quoi? Je vais envoyer un message à notre ami Sacha Houllier qui s'est battu pour les déplacements de supporters et on l'a soutenu dans son combat.
Et qui a bossé avec tous les gens. Qui a annoncé là.
Eh ben moi, j'aimerais savoir ce soir si ça lui donne pas envie de changer d'avis ce qu'il a vu et s'il se dit pas à un moment va peut-être falloir qu'on change de logique.
Alors sur
je vais lui envoyer un message. Je vais lui demander s'il veut passer à l'antenne.
Voilà. Sur le tout répressif. C'est une énorme connerie de raconter ça, parce que si c'était tout répressif, la police ne collaborerait
pas. C'est pas moi qui l'ai dit.
Ne collaborerait pas avec les clubs et les groupes de supporters pour organiser des déplacements de gens qu'ils savent violents pour certains. C'est que là, on en est quand même. C'est vrai que philosophiquement, tu dis que là, les forces de l'ordre encadrent une violence qu'ils connaissent, ce qui en fait paraît complètement fou en vérité.
Et assiste impuissant à la sauvagerie des uns face aux autres. Ils sont témoins.
Les supporters ne sont pas violents, évidemment, mais. Enfin, on sait qu'il y en a qui sont barjots.
C'est quand même des bus entiers de sauvages se rencontrent. Donc c'est quand même c'est inquiétant pour le monde dans lequel on vit, pour la civilisation.
Oui, bon après c'est toujours pareil, tout n'est pas tout noir et tout blanc. Il n'y a pas que des sauvages, il y a aussi des mères de famille là-dedans avec leurs gosses dans les bus qui se retrouvent dans un guet-apens. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Bon voilà les infos du soir. Si jamais Sacha Houllier te répond, Daniel, il sera le bienvenu évidemment. Dans un instant, Mbappé. Mbappé qui a fait une petite déclaration sympa, vous allez l'entendre dans quelques secondes. Et aujourd'hui, il était au Grand Prix de Monaco.
Ils étaient tous. Hein. Tout le monde était.
Bah non, il y en avait déjà qui étaient à Roland-Garros aussi quand même.
Bah, l'ancien joueur de foot, Verratti, qui a posté des photos du balcon, des photos du bateau cet après-midi.
Et Jérôme Roten aussi.
Jérôme Roten y était évidemment aussi.
Voilà, tous les grands.
Exactement.
Allez, à tout de suite dans l'after.
Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 22h22, Daniel Riolo est là, Stéphane Guy est là. Tu as une réponse de notre potentiel invité?
Oui, je pense que Jérôme, il m'entend Jérôme, tu peux lui téléphoner.
Voilà, ça se passe en direct. Hein, c'est,
Et Sacha, il faut le féliciter, il est dans un moment très important de sa vie. Ah. Un moment qui compte dans une vie. On dirait pas plus, mais il accepte pendant 5 minutes.
On devine, on le félicite.
Très bien. Vas-y Jérôme, tu peux l'appeler.
Bon, ça me permet en attendant de faire un petit point sur les scores, vous dire qu'il y a toujours un partout entre Séville et le Barça, et vous dire qu'en Italie, pendant ce temps-là, les évolutions de score, ben, il n'y en a pas en fait. Toujours 2-2 entre Vérone et l'Inter, un partout entre Empoli et la Roma. Vous dire également que demain, on aura un after un peu spécial parce que il y a un grand débat des européennes sur RMC et BFM demain, mais il y aura l'after quand même. C'est-à-dire que si vous voulez avoir l'after en direct demain, il faudra aller sur RMC en tout début de soirée, puis ensuite sur la chaîne YouTube et en podcast évidemment. Voilà. Et puis après, à partir de 20h30, sur l'antenne d'RMC classique, il y aura le débat, qui est un débat important évidemment à quelques jours des élections européennes.
Pour les élections européennes. Ouais.
Mais l'after existera tout de même demain sur YouTube en direct et en podcast. Voilà. Tiens, un petit tour à Roland-Garros rapide. Le point match de Moutet, Eric.
Corentin Moutet, oui, opposé à Jarry là, 2-7-1. Jarry a pris le troisième set, donc 6-3, il s'est redonné de l'air. Mais attention, il se met en danger, il vient de commettre quelques bêtises. Moutet retrouve de l'euphorie. 1-0 dans le quatrième set pour le gaucher parisien. Il est à 0-15 sur service de Jarry. Et Terence Hassmann, lui aussi, se rapproche peut-être de la qualif, puisqu'il mène 2-7-0. Et on va jouer le tie-break du troisième contre l'Autrichien Hoffner. Et sur le central, 2-7-0 pour Wawrinka.
Merci Eric. On se retrouve tout à l'heure.
Si on a quelques nights de feu hein, sur les derrière Eric.
Si on a quelques night sessions qui se finissent après minuit sur RMC, certains soirs, on ira après minuit avec Nicolas Jamin, passionné de tennis lui aussi, qui sera là. Sacha Houllier est avec nous, député de la Vienne. Bonsoir Sacha.
Bonsoir.
Bonsoir Sacha.
Merci d'être avec nous.
Bonsoir Daniel.
On a évidemment rappelé ce qui s'est passé hier soir, brièvement donné notre avis. On rappelle qu'avec un groupe de parlementaires, vous avez ensemble travaillé il y a quelques temps de cela à mettre de l'huile concernant les déplacements de supporters, à réintroduire pas l'utilisation des fumigènes, les déplacements. Vous avez fait un tour d'Europe pour voir comment ça se passe à l'étranger. Un gros boulot.
Démarche, il faut le rappeler, qu'on a soutenu, on a félicité qu'enfin un homme politique, un député puisse avoir ses idées. Mais Sacha, comme je commençais à te le dire par message, moi j'ai définitivement changé d'avis. Je pense qu'il faut la ministre avait mis en place un moratoire d'un mois après Marseille-Lyon. Je pense qu'il va falloir le prolonger et le mettre en place beaucoup plus longtemps, parce que la situation est intenable. Il n'y a plus un seul déplacement qui se passe correctement.
Mais là encore, il faut voir aussi comment ça a été organisé. À chaque fois, en fait, la question qui se pose, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, on a tous les outils juridiques pour faire le nécessaire et pour faire bien? Et on a répondu à cette question, oui, on a tous les outils juridiques. Et tous ceux qui n'étaient pas suffisamment performants, soit parce qu'ils étaient excessifs sur les interdictions administratives, soit parce qu'ils étaient insuffisamment cadrés sur la préparation des déplacements, eh bien ça, on a remédié à ça. On a fait des lois, on a revu les décrets, il y a le décret Castaner depuis 2019, on doit pouvoir préparer. Après, contre la DNLH, la Direction Nationale de Lutte contre l'Hooliganisme, elle classe le match 5/5. Pourquoi il y a des bus qui sont en retard? Pourquoi il y a des groupes de supporters qui ne rendent pas compte aussi, alors qu'ils ont été forcément réunis pour le déplacement, avec les autorités de la préfecture, avec forcément la Fédération Française de Foot, puisque c'est l'organisateur de la compétition, et qui, à un moment donné... par rapport aux objectifs qui avaient été fixés de date de rendez-vous, de point de rencontre. Pourquoi ça s'est mal passé? On sait depuis notamment la préfecture de police de Marseille et le travail de Frédéric Camilleri, qui est maintenant préfète de l'Essonne, qu'on peut faire des gros déplacements européens. Il y a eu le cas de Francfort, il y a eu le cas c'était Thessalonique qui était allé, je crois, à Marseille.
Oui, Thessalonique qui est venu à Marseille, oui.
Ça, on l'a organisé, et pardon, mais par rapport à nos supporters locaux, c'est pas non plus des enfants de cœur. Et puis par ailleurs, on a toujours les outils aujourd'hui de sanctions individuelles. Hein. Tous les gens qui se sont mal comportés autour du stade et dans le stade, enfin, je rappelle les désordres qu'il y a eu autour de la Gambardella, en fait, il faut
donc
que...
Sacha, avec le recul et après tout le boulot,
il n'y a pas une interpellation.
Il y en a une, mais il n'y a rien. Le problème, Sacha, c'est qu'il se passe rien. Après Marseille-Lyon, on n'a chopé personne.
Alors, on a chopé, on avait attrapé en réalité 15 personnes qui avaient été placées en garde à vue, et il y avait plusieurs dossiers qui ont été renvoyés. Avec, je crois,
il y a eu des sanctions claires. Hein. Il y a eu des condamnations.
Ouais. Pour les Lyonnais, mais pour ce qui s'est passé dehors.
Pour certains qui ont jeté les fameux pavés sur les bus, il y a eu des condamnations.
Le petit groupe qui avait caillassé le bus lyonnais avec les blessures graves, y compris celles qu'on a vues, parce qu'on a tous en tête le visage de Fabio Grosso. D'abord, ça a été en comparution immédiate. Il y a parfois eu des renvois parce que les avocats les ont demandés et qui sont de droit. Mais par contre, il y a eu des condamnations à la fois pénal au fond, c'est-à-dire qu'ils ont pris des amendes et voire des peines de sursis. Et puis il y a des peines complémentaires, et c'est les plus importantes pour ce qui nous concerne, pour les compétitions, pour le tour dans les stades, parce que ces peines complémentaires aujourd'hui, elles sont systématiquement maximales, c'est-à-dire 5 ans d'interdiction de stade.
Sacha Houllier, est-ce que quand on voit ce qui s'est passé hier, je peux poser une question, les gars, j'avoue, est-ce que il faut définitivement se dire, quand c'est 5 sur 5, et ben on interdit, pas de déplacement.
Sur le principe, moi, je pense que non. En fait, le travail qu'il y a à faire quand c'est 5 sur 5, c'est en fait de responsabiliser tout le monde dès le départ. On réunit le préfet d'accueil, on réunit les clubs qui sont les deux clubs organisateurs, on réunit les présidents de tous les groupes. Moi, j'avais fait une autre proposition qui était une des plus polémiques, qui aujourd'hui n'a pas été mis en œuvre, mais qui dit, si on fait confiance aux supporters, on leur dit attention, vous venez avec le référent supporter, vous venez avec les présidents des groupes, qui sont les présidents de l'association loi de 1901. J'avais dit pour les fumigènes, si on veut autoriser les fumigènes, eh bien il y a un usage qui est légalisé. Par contre, s'il y a un désordre, parce que c'était un peu la peur qu'il y ait le désordre sans arrêt, c'est le président de l'association loi de 1901 qui est responsable civilement et pénalement. Peut-être qu'à un moment donné, s'il faut vraiment qu'il y ait une responsabilité qui tombe, il y a le président de l'association qui coordonne et qui est responsable civilement et pénalement. Alors, il y en a qui disent ça va être ça va faire en sorte qu'il n'y ait plus de format associatif, ça va faire en sorte qu'il n'y ait plus de personnes qui veuillent être président d'association. Donc ça, c'est un débat ensuite. Mais je pense que sur ce genre d'événements qui sont les plus difficiles à organiser et donc les plus susceptibles d'une interdiction, on doit quand même donner la chance de le faire. Mais la réalité, c'est que si on interdit brutalement comme ça, on se retrouve ensuite sous le coup des juridictions qui disent légitimement atteinte à la liberté de circulation. Et s'il y a un arrêté d'interdiction et ensuite une annulation du juge, ça veut dire qu'on met tout le monde dans la nature sans rien avoir préparé. C'est pire encore.
Mais Sacha, en fait, moi, ce qui me gêne, c'est que on mobilise autant de forces de l'ordre pour un match de foot. C'est insupportable. Les forces de l'ordre, elles sont sollicitées, sur-sollicitées, à bout de nerfs. Ils peuvent même plus prendre de vacances, les flics. En fait, on peut plus. Au bout d'un moment, il faut reconnaître que trop, c'est trop. Et faire confiance aux supporters, c'est de plus en plus compliqué parce qu'ils finissent toujours par ne pas tenir leur parole et finalement à faire reposer la faute sur l'autre. C'est pas moi, c'est l'autre qui a commencé, mais on est débordé. Moi, je les connais, les discours sur le leader qui dit, mais on n'arrive plus à tenir la base. Ceux qui ont fait les cons, c'est pas des mecs qui sont encartés, c'est ceci, c'est cela. Il y a le beau discours et puis il y a les faits. Et dans les faits, moi, ce que je vois, c'est que très honnêtement, il y a trop eu d'incidents sur la dernière année autour des déplacements de supporters. On est obligé de revoir. C'est comme les interdictions de stade. C'est plus dissuasif. Pendant que nous, on en prend 300, les Belges en prennent 1000. À un moment, on va pas assez loin dans la sévérité.
Dans ce que tu dis, il y a trois choses. C'est que les deux premières choses, c'est que pour les événements internationaux, on sera de toute façon d'avoir une mobilisation pareille. Donc, c'est-à-dire Coupe d'Europe ou grand événement type Euro, si on avait à l'accueillir à nouveau, voire Jeux Olympiques. De toute façon, ces mobilisations de force de l'ordre, on est obligé de les déployer, donc il vaut mieux avoir l'expérience pour le faire. En revanche, effectivement, là où tu as raison, c'est que sur les déploiements des outils, puisqu'ils sont individuels, et puisqu'on a préconisé les sanctions individuelles, il faut que toutes les sanctions individuelles soient appliquées. Et c'est-à-dire que on ne peut plus dire qu'on ne peut pas les identifier, parce qu'aujourd'hui, avec la vidéoprotection dans les stades, avec l'identification, on peut identifier tout le monde. Donc ça, pour le coup, il faut qu'il y ait une coopération qui soit beaucoup plus forte pour l'identification des fauteurs de troubles. Puis après, il faut aussi, et c'est là où il y a un travail supplémentaire à faire avec les groupes de supporters, c'est-à-dire que il peut y avoir des individus qui sont non encartés, etc. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce qu'ils font dans les carrés réservés aux groupes de supporters? On sait très bien que il y a des tribunes, et particulièrement en virage, c'est des associations de supporters qui gèrent, et donc elles ont plus ou moins la main. Sinon, sur la commercialisation, ça c'est fini, et heureusement. Au moins sur les personnes qui sont susceptibles de prendre des places dans le virage, ou en tout cas les occuper lorsqu'ils sont abonnés, lorsque le carré leur est réservé. Et donc ça, il peut pas y avoir de défaut de la part du président de l'association ou de la part des dirigeants de l'association pour dire celui-là je le connais pas, il est pas à moi, j'ai pas pu le gérer. C'est un individuel quelque part.
Et puis Sacha, il y a un défaut de collaboration des clubs qui les connaissent très bien, les fauteurs de troubles, et qui n'aident pas. Le monde du football ne vous aide pas, ils ne communiquent pas, ils ne disent rien. Après Marseille-Lyon, la Ligue, on a attendu 1000 ans que le président s'exprime.
Daniel, je rejoins un point avec toi, c'est que le travail de... Je ne veux pas dire de nettoyage, parce que ce n'est pas vraiment ça, mais le travail qu'il y a à faire auprès des fédérations et des ligues, et notamment sur l'assainissement du contexte des ligues et des fédérations, il en est qu'au béaba, et les premiers éléments qu'on a eus l'année passée, eh bien, on n'est pas allé au bout des choses, et on aurait dû, enfin, l'État, comme délégataire de services publics auprès des fédérations, aurait dû, eh bien, prendre davantage la main pour assainir un peu le monde du football et le monde des fédérations sportives.
Merci Sacha Houllier, député de la Vienne, qui connaît très bien ces affaires de supporters pour avoir travaillé longuement ces questions-là dans un groupe
et
de
bonne
travail.
Bonne soirée Sacha. Avait...
Merci.
Oui.
L'essentiel est à venir a priori.
Exactement.
Bonne soirée. À
bravo,
très vite.
Ciao.
C'est d'ailleurs que c'est, oui. On parlait de Daniel parlait à juste titre du travail supplémentaire de la mobilisation des forces de l'ordre. Mmh. Et même est-ce que la représentation nationale ne passe autant de temps sur ces questions-là? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Je dirais, est-ce qu'un député,
voilà, les clubs payent, voilà, les clubs payent, les primes des flics, c'est les clubs qui les payent, et tous les dégâts il y a au PA,
le pognon ne manque pas dans le foot. Les clubs payent déjà une partie, hein,
ils payent une partie, ils payent tout, et les dégâts aussi hier du PA, j'ai tout trente, une autoroute bloquée dans les deux sens. Mais t'imagines, toi t'en as rien à cirer du foot, t'es là, tu roules parce que fallait que t'ailles faire je sais pas quoi. L'autoroute est bloquée. Les gens, j'ai vu les images, on m'a envoyé des images. Les gens passaient par des chemins de campagne, des chemins boueux pour gagner. Mais ben, dans quel monde on est, quoi? Moi, derrière, mais si je suis dans ma bagnole, je suis confronté à ça. Mais j'en ai rien à cirer de savoir pourquoi le bus il n'est pas arrivé à l'heure, pourquoi il a fait un détour, pourquoi c'est machin qui est descendu le premier du bus qui a acheté un fumigène et que l'autre il avait des couteaux et des barres de fer. Mais j'en ai rien à foutre, moi, des sauvageons et des mecs qui se courent après dans la rue pour se savater à cause d'un match de foot. Mais dans quel monde on est, quoi?
Dans un instant, Mbappé, revenons à l'essentiel quand même, dans l'after. Stéphane veut donner son avis sur la méforme actuelle du... Ouais, on ira le voir dans quelques instants.
C'est la folie là-bas.
Il y a les ultras Roland-Garros, mais qui est encadré les ultras Roland-Garros, monsieur Sagno, qu'est-ce qui se passe? On va le voir dans quelques instants.
C'est une...
Hein? Non, hein? Dans quelques instants.
La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici, au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de trois pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. C'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique.
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique. Voir conditions et règlements du jeu sur lekioskeapizza.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 22h36, Daniel Riolo est là, Stéphane Guy est là également. Et donc, Eric Salio et les ultras de Roland-Garros.
Des ultras, c'est un grand terme, Gilbert, mais c'est vrai que depuis quelques temps, il y a ce qu'on appelle une tribune bleue. Ce sont des jeunes supporters qu'on avait déjà vus en Australie, qui poussent les Français. Et là, bah, je sais pas comment ils sont sur le Simone Mathieu, mais ils sont en train de rendre dingue Jarry. Je pense qu'il en a plein les oreilles d'entendre des moutés, parce que le score est incroyable. 2-7-1 pour Moutet. Et surtout 3-0 pour le gaucher parisien.
Et deux balles de break, là, c'est ça?
Et deux balles de break, deux balles de 4-0. Il est en train de l'assommer, de le rendre. Il est perdu. Nico Jarry, ce grand escogriffe avec sa tenue.
Le service cuillère qui lui a fait.
Mais oui, non, mais c'est un génie. C'est une sorte de génie, Corentin Moutet. C'est un caractère très particulier, mais c'est un génie, raquette en main. Et là, il va peut-être aller chercher la plus belle victoire de sa carrière. On va pas s'emballer, parce que c'est pas fini encore. On parle quand même d'un mec qui a fait finale à Rome. Mais là, il est
pas jusqu'à 16e mondial, quoi.
Absolument. Finale à Rome, là, récemment?
Oui, Jarry.
Oui. Ah, mais Moutet, tu dis c'est un génie, mais
il perd contre...
C'est quoi sa meilleure perf à Moutet?
Non, mais c'est pas un génie, Eric. C'est juste que c'est un joueur fantastique.
Main droite, il vient sur une main droite, Daniel, tu l'as vu ? Incroyable.
En fait, il a un super toucher de balle, c'est un joueur fantastique, c'est un mec un peu foufou. Ses matchs, en fait, c'est du kiff quand tu regardes, mais il va pas très loin dans les tournois. Mais c'est plus, c'est un
des grands
chelems,
son physique, lui, oui. Il avait vu 8e à l'US Open, quand même, une année. Ça avait été le meilleur français. Mais là, il est vraiment à deux doigts de toucher la plus belle victoire de sa carrière. Mais pour savoir, en plus, qu'il s'est fait, il s'est fait opérer du poignet, et donc pendant presque 6 mois, il pouvait pas faire de revers à deux mains. Mais il était resté sur circuit.
Il jouait quand même.
Il faisait que des chopes.
C'est fou.
Ça lui permet de sauver son classement quand même. Non, mais je vous dis, c'est un génie. Il a 25 ans.
À un moment, il s'est lancé dans le poker un peu à fond.
Et dans le rap aussi.
Et dans le rap aussi, ouais.
Attention. Oh, il est pas loin. Il vient de sauver les deux balles de KO, là.
Bon, on revient te voir dans quelques instants. Bouge pas. Nous, en attendant, on parle de Mbappé avec Stéphane. Jingle, Stéphane Guy.
Il a tout tenté parce qu'il a tout raté. S'il avait pas tout raté, il aurait pas tout tenté.
Avant que tu prennes la parole, j'aimerais vous faire écouter quand même le petit morceau d'interview lunaire de Mbappé hier soir. C'était sur France Télé. Écoutez ce qu'il dit après le match.
Il y a énormément d'enfants devant la télévision. Quel message vous avez à leur faire passer ce soir? Parce que voilà, vous allez plus jouer avec le maillot du Paris Saint-Germain la saison prochaine.
Bah, j'espère qu'ils vont continuer à regarder le Paris Saint-Germain. Qu'ils me regardent aussi, c'est normal. J'espère que je les ai fait un peu rêver.
Voilà. Là, et là. Moi, j'adore Mbappé, mais là, on est au-delà du boulard quand même. Parce que
c'est Alain Delon.
C'est Alain Delon. Je me casse, donc j'espère quand même qu'ils vont continuer à regarder le Paris Saint-Germain. Bon, ouais. Allez, c'était comme ça pour rire. Vous voulez en parler ce soir?
Oui, je voulais en parler. Oui, parce que c'est pas non plus. Je l'avais pas entendu. C'est l'ami Jérôme Thomas qui m'a alerté là-dessus, mais c'est assez symptomatique. Moi, je trouve que ça communique. Alors, évidemment, je vais pas vous rappeler à quel point j'adore Mbappé. Je l'ai appelé le génie français, c'est pas pour rien. Je le trouve toujours français, très peu génie en ce moment, sur le terrain. Et aussi dans sa communication, on a envie de retrouver justement un Mbappé. On a envie de lui dire détends-toi, retrouve ton naturel.
Est-ce que c'est encore possible?
Bien sûr. Mais là, les dernières sorties, toutes les sorties, que ce soit au Parc des Princes, autour de la finale de la Coupe de France, c'est
maîtrise plus grand-chose.
Et ce qui est inquiétant surtout, c'est son niveau, parce qu'encore une fois, il a traversé cette finale de la Coupe de France de façon quasi clandestine, ce qui paraît
après
inconcevable.
Après une semaine où on l'a vu jouer au tennis, aller à Cannes,
et là, on le voit à la Formule 1. Et Daniel rappelait, toi tu rappelais Gilbert, on est à 19 jours de l'Euro. Il faudrait, évidemment, c'est pas un personnage ordinaire, mais il faudrait vraiment qu'il soit hors norme pour en 3 semaines, enfin, 2 semaines,
l'Euro.
3 semaines.
Ah là, franchement,
retrouver un très très haut niveau, retrouver le niveau qu'on attend de lui dans une grande compétition comme ça, ce serait quasi miraculeux.
Tu crois pas,
c'est
quoi.
Ça. Non, j'ai du mal à y croire. Mais bon, après, ceci dit, il y a une semaine, avec Daniel, on était là, et moi, je disais, je voyais pas comment il pouvait jouer à la finale de Coupe de France. Ça me paraissait
impossible. Mais ça, c'est pas la même chose. Ça, c'est le choix de l'entraîneur qui a décidé de le faire jouer. D'ailleurs, une fois de plus curieux, décidément, on ne comprendra jamais rien.
On comprend rien.
Ouais. On verra bien à la rentrée si ça continue d'être aussi flou. Mais effectivement, le fait,
et la dernière fois qu'on a annoncé
qu'il allait l'être, lui qui annonce jamais ses compos, ses joueurs et tout, là, il annonce, évidemment, il sera titulaire. Complètement incroyable.
Et on a l'œil qui diverge vers Moutet, on est désolé, et il gagne 4-0 quand même, ça il a réussi.
Il y a des gens qui demandent sur quelle chaîne, ça doit être sur France 4 si vous voulez écouter l'after et regarder le tennis en même temps. Sur France 4.
Ouais. Ça c'est assez facile, c'est assez facile d'accès. Non, c'est facile à faire, de regarder du tennis et d'écouter l'after pour le coup. Nous, quand on était enfant, on révisait le bac pendant qu'on regardait Roland Garros, c'est un peu plus compliqué quand même.
Oui. D'ailleurs, je me rappelle que des gens avaient fait une pétition pour déplacer les dates du bac. En disant,
C'était pas un peu plus tard, Roland Garros, avant, Daniel? Non.
Ah non, ça a toujours été la dernière semaine de mai, première de juin. Ouais. Après, en fonction de quand est la dernière.
Par contre,
semaine.
Le bac était plus tard.
Et le bac était plus tôt alors, non?
Non, à notre époque, à nous.
J'ai l'impression que je me souviens être allé. Bon, bref, peu importe. Passer l'épreuve du bac vraiment après une belle journée dans Roland-Garros. Donc pour revenir au cas Mbappé, oui, son niveau sportif, parce que depuis combien de temps n'a-t-on pas vu Mbappé faire un match plein en 2024? J'ai pas souvenir de l'avoir vu faire un grand match accompli, depuis
qu'on sait qu'il part.
Ouais, ouais.
Il a
un génie particulier qui lui permet. Il a fait quelques perfs.
Depuis
notamment
l'annonce de son départ,
contre la Sociedad, le doublé à Barcelone, etc. Mais dans le contenu de ces matchs, on retrouve pas ce qu'on aimait de ce joueur.
Je parle pas de l'annonce officielle que lui lui-même a faite avec la vidéo il y a quelques jours. Je parle de quand c'est sorti.
Et même cette annonce-là, franchement, moi qui l'adore, j'étais quasiment mal à l'aise en regardant ça. Je me disais, mais non, pas comme ça, pas toi, pas ça, pas maintenant. C'est pas possible.
Et mais tu sais, le sujet, là, ce que tu évoques sur Mbappé, est-ce qu'il est devenu en train de devenir, il a de l'avance sur Ronaldo et Messi, mais l'ère de foot qu'on traverse là, je vois pas tellement d'autres joueurs qui pourraient leur succéder, parce que on a eu Messi, Ronaldo, on va dire de 2008, 2010 à 2020 maintenant. Après, on va me dire ils ont pas gagné exactement la même chose. Enfin, peu importe. Et Mbappé a semblé être le fils naturel de ces deux-là.
Même être en avance sur eux, au même âge.
Et en fait, ils ont complètement, on le dit pas assez, mais les deux autres aussi ont complètement vrillé. Messi aussi est complètement sur une autre planète. Les affaires, il y en a eu des tonnes. Hein. Ces trucs d'impôts, sa petite dictature au Barça dans le vestiaire, l'affaire récente qui, je trouve, fait très peu de bruit, révélée la semaine dernière sur ce qui avait été demandé justement encore pour payer moins d'impôts à Seferine. Cristiano Ronaldo, c'est pareil. Cristiano Ronaldo, t'as l'impression qu'il est complètement ailleurs. Obsession.
Non, mais là, ils sont au-delà des 35 ans. À l'âge de Mbappé, ils étaient au cœur de leur métier.
Exactement.
Ils étaient performants et avec une régularité extraordinaire.
Lui, avec de, lui, bon,
lui
en
a
avance,
des circonstances atténuantes. Il a vécu à cause du Paris Saint-Germain, ça c'est mon point de vue à moi, et de son président Nasser Raffi,
en fait,
une anus horribilis cette année.
On ne se rend pas compte de la machine à laver qui est devenue le foot à ce niveau-là, des sollicitations, de ce qu'il vit avec un président qui lui fait des câlins, un mec qui est au milieu de discussions de milliards, de diplomatie internationale, il se retrouve dans des dîners, enfin bon, c'est garder la tête froide, c'est pas donné à tout le monde, mais à ces niveaux-là.
Non, puis là on te parle de Euro, on te parle de Jeux Olympiques.
C'est plus joueurs.
Tu rappelles que ce garçon-là n'a pas eu de préparation l'été dernier, qu'il a une saison. Moi, je partage. J'ai entendu Roland en parler, Roland Courbis, avant la finale de la Coupe de France. Mais effectivement, se dire que ce garçon-là n'est toujours pas blessé après la saison incroyable qu'il traverse là, c'est. Alors peut-être que effectivement, sans le, il met pas tout le gaz qu'il devrait mettre parce que il craint peut-être ça justement. Mais c'est vrai qu'on a. Mais c'est sans doute pas possible. Mais ça, moi, en tout cas, j'aimerais revoir un Mbappé au naturel, un Mbappé tel qu'en lui-même.
Et pas
cette espèce de personnage qu'il est en train d'endosser.
Je me demande s'il n'est pas perdu.
Espérons que ce ne soit pas terminé. Non.
Il y a Youssef est là au 32-16 pour avoir son avis à lui aussi. Youssef, bonsoir.
Bonsoir, l'after. Ça me fait plaisir de passer.
T'es d'accord avec Stéphane, là, sur le niveau de Mbappé? T'es inquiet, toi aussi?
Écoute, moi je suis supporter du Real Madrid.
Ouais.
Je te cache pas que franchement, là, on reste sur 6 Ligues des Champions, on va peut-être prendre la 6e Ligue des Champions sur les 10 dernières années. J'ai peur qu'il déséquilibre l'équipe, qu'il ramène ça, parce que là, que ça fasse comme à Paris, quoi.
Ah. Tu veux pas nous dire qu'il affaiblisse l'équipe?
Excuse-moi, j'ai pas. Les 7 ans qu'il a fait à Paris, au niveau de la Ligue des Champions, c'est catastrophique, on n'en parle pas, mais c'est catastrophique. C'est-à-dire qu'en Ligue 1 et en Coupe de France, il n'y a pas de souci. Mais dès que le niveau il s'élève, il n'est pas là, le gars. Tu le vois. Cette année, tu l'as vu. Hein. C'est-à-dire que le gars, il voulait des responsabilités. Il s'occupe. Depuis 2 ans, c'est lui qui fait le recrutement. Je pars, je pars pas. Il fait
non, mais ça, on ne peut pas dire ça. Non, moi, c'est mais ça, c'est lui. Il n'a pas été là sur Dortmund. Mais
c'est
Mbappé en Ligue des Champions, c'est pas vrai. C'est
honnêtement, il y a des délires de fou. Franchement, je l'ai dit hier soir et je vais le redire. Je vous encourage à aller voir. Donc, sur Canal, ça s'appelle 7 ans, L'amour dure 7 ans, le doc. Je pense que la mémoire fait grandement défaut à ceux qui regardent le foot.
Le Real Madrid, c'est l'année dernière. Que cette année, c'est Mbappé qui fait le match.
Que cette année, et ne serait-ce que contre la Real Sociedad, certes une petite équipe, mais c'est encore lui, quoi. Après ça, il y a rien eu. C'est éteigné les lumières, ça a disparu. Mais ton Real Madrid sur le match du 1-0-1-3, sans Mbappé, le PSG n'existe pas. Il marque à l'aller, il marque au retour. Il devait faire quoi de plus en vrai? À tous les matchs de Coupe d'Europe, il a tout le temps marqué, il a tout le temps été là. Mais allez regarder le doc, hein, je pense que vous avez complètement perdu tous la tête, hein, les détracteurs de Mbappé. Hein. Moi, je veux bien lui taper dessus autant que vous voulez sur les 3-4 derniers mois, parce qu'en plus, on sait à quel point il a totalement vrillé au niveau de l'entraînement, il a tout lâché, mais vraiment tout lâché. Mais il faut refaire le film de cette année. Les responsabilités sont complètement partagées. Hein. C'est une folie totale ce qui s'est passé dans le club. Je crois que vous mesurez pas exactement ce qui se passe au PSG. Alors c'est peut-être de notre faute parce que moi personnellement, je ne dis que la moitié de ce qui se passe en coulisses, tellement je crois que vous ne pouvez même pas imaginer comment ce club est géré en interne. Qui sont les décideurs, les gens qui sont autour de Nasser Al-Khelaïfi. Je vais vous dire juste une chose. L'année dernière, quand j'enquêtais sur l'affaire Amraoui, qui était quand même une affaire liée au PSG, hein, des gens dans la police m'avaient dit il n'y a aucune raison pour qu'à court terme, le grand banditisme n'intègre pas le PSG. J'ai écouté, j'ai dit ah oui, d'accord, ok. Et récemment, on m'a rappelé cette phrase et on m'a dit le temps s'est écourté. Je crois que vous vous rendez pas compte de ce qu'il y a dans ce club. On peut même pas tout raconter en fait.
D'ailleurs, il y a une petite phrase de Kylian Mbappé quand il a dit j'ai pas de problème avec Luis Enrique. Mes problèmes sont ailleurs. Je ne sais plus exactement quelle est la phrase. La phrase clé.
Mais ça, on peut même pas en parler de ça.
La deuxième partie.
Malheureusement, c'est des choses dont on peut pas parler. C'est tout. C'est la première fois dans ma vie que je dis qu'il y a des sujets qu'on peut même pas évoquer ici, alors que moi j'ai toujours tout dit. Voilà, parce qu'à un moment, il y a des choses dangereuses. Voilà.
Bon, là, Daniel, tu.
Ah non, non, mais je vous assure, mais c'est pour ça certains supporters du PSG quand ils disent ouais, mais vous dites tout le temps, vous faites la fine bouille, hein, Mbappé, machin,
Lui, il a besoin, moi je pense,
désolation permanente.
De repos et de repréparer une saison. C'est ça dont il aurait dans l'absolu besoin, ce qui évidemment.
Youssef, dis-moi, toi qui es supporter du Real, t'en es pas à te dire quand même qu'il faut pas qu'il vienne.
En tout cas, il sera beaucoup plus tranquille au Real, t'inquiète pas.
Il va déséquilibrer. S'il fait comme à Paris, la starlette, et je fais le recrutement, je veux pas de lui, je veux être le numéro 1. C'est-à-dire que lui.
Il n'a jamais fait le recrutement, Youssef, arrête de raconter n'importe quoi. Il a donné un avis, et si le club était fort, s'il y avait un président qui ne se laissait pas marcher sur les pieds par tout le monde, il n'aurait rien dit. S'il a dit, c'est qu'on l'a laissé dire. C'est tout. Si le PSG était un vrai club avec des vrais dirigeants, non seulement Mbappé serait parti il y a 2 ans quand il avait 180 millions sur la table. Si le club était géré correctement, on n'aurait pas traîné une fin de contrat. On n'aurait pas fait une saison aussi merdique que cette année, comme celle de l'année dernière, encore pire. Mais cette année où on a traîné un joueur qui, il y a 6 mois, a complètement arrêté de jouer, qui a eu des problèmes perso que vous n'imaginez même pas. Arrêtez de dire n'importe quoi. Il ne fait pas le recrutement. Ça n'est pas vrai.
Bon.
S'il y avait un vrai président au club, il n'aurait pas dit oui pour recruter Randal Kolo Muani alors que Luis Campos n'en voulait pas. Parce que c'est le rôle d'un directeur sportif. Si ce club était géré correctement, il n'y aurait pas un directeur sportif à Doha, un autre à Paris, deux mecs qui peuvent pas se blairer, qui peuvent pas se parler. Mais vous rendez compte ou pas à un moment? Vous croyez réellement qu'il y a un seul homme qui est responsable de toute cette situation? Mais vous croyez vraiment que le...
Allez, tournons-nous
vers la saison prochaine. Vous vous rendez compte le nombre d'affaires qu'il y a eu autour de ce club ces dernières années?
Daniel, moi j'ai l'impression que ça fait même pas ces dernières années.
Mais on en parle sans arrêt, mais vous écoutez ou vous écoutez pas tout ce qu'on raconte, ou il faut vous les dire en quelle langue les choses?
Balle de match à Roland-Garros, Eric.
Incroyable, balle de match pour Corentin Moutet qui est en train d'assommer Nicolas Jarry, finaliste à Rome. Incroyable, 5-0, 15-40. Jarry, je pense qu'il a qu'une envie, c'est d'entrer au vestiaire, il n'en peut plus, il en a plein les oreilles.
Il est out.
Oh là là là, il est out, il va quand même checker la marque, Corentin Moutet, mais il n'a pas confiance en l'arbitre. L'arbitre lui dit non, je ne descendrai pas de ma chaise, elle est faute.
Corentin, Coco va te placer là, va jouer le point d'après.
Faut qu'il se calme, il a encore le temps là, 5-0. Il a encore une balle de match à venir, voilà, il l'a vu.
Ouais, il voulait vraiment que le mec descende.
Voilà, c'est ça.
Je le connais pas, cet arbitre, c'est qui lui?
C'est
Luis Campos.
Non, c'est une pointure.
C'est pas une pointure, on le connaît très bien.
Si, il a déjà plus très des finales de Schlem. 5-0, 30-40. Moutet, encore une balle de match donc pour dégommer la tête de série numéro 16. Allez
c'est fini.
Un bon passing dans les. C'est fini! Avec une volée qui sort, c'est la plus belle victoire de sa carrière, incontestablement. Il avait promis l'enfer à Jarry. À Jarry, la poignée de main sympa, contrairement à celle de Santiago, mais là il jubile. Là il peut exploser. Ouais. Chef-d'œuvre tactique, chef-d'œuvre de volonté, et puis une ambiance de malade mental. Ce Roland part sur d'excellentes bases.
Il joue qui au prochain tour?
Alors, il joue le vainqueur d'un match qui aura lieu demain entre Karatsev et Shevchenko. C'est tout à fait jouable.
Ouais. Parce que Karatsev, c'est un bon bourrin, donc il va lui bien lui casser le jeu. Chemchenko, c'est pareil, c'est pas très doué. Donc non, il a toutes les chances d'aller très très loin dans son match.
Incroyable. Si je me méfie quand même.
6-2, écoutez ce score, c'est incroyable. 6-2, 6-1.
Attends, qu'est-ce que t'as dit là, Gilbert? Qu'est-ce que t'as dit? Du jour au lendemain, c'est plus le même joueur.
Gilbert, tu vas réécouter les paris RMC. J'ai annoncé ce matin victoire de Gasquet en 3 et victoire de Moutet. Basta. Bonne nuit à tous.
Oh, mais sans me. Je rappelle qu'Eric Sagnol vient de Flair.
Exactement.
Flair de l'Or. J'ai eu du Flair aujourd'hui.
Normalement, il devrait être en train quand même trouver.
Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, je pense qu'à l'avance.
Ouais. Enfin, s'il trouvait si souvent, il serait très riche avec les paris. Ouais. Malheureusement, il ne l'est pas. Ouais. Alors,
c'est vrai,
pour lui.
Je suis dans un taudis.
Salut Eric, bonne soirée.
Ciao les gars, ben demain.
Ciao.
Qui, tu viens, Daniel, demain pour Rafa, là?
Écoute, si tu me trouves des places, avec plaisir. Ah, mais non, moi, j'ai tout misé mes crocages sur la deuxième semaine. J'ai eu tout faux. Ah, donc, si quelqu'un a deux places pour demain après-midi, je veux bien.
Quelle erreur.
Premier tour, tu pouvais anticiper ça, toi?
Ouais, Eric, bonne soirée.
Ciao les gars.
Mercato parisien. Le PSG s'intéresse à un gardien russe. Il s'appelle Matvei Safonov.
Quand tu penses, Gilbert, quand tu penses.
De quoi ?
Le nombre de gens demain qui vont être au village à bouffer, qui n'en ont rien à cirer du tennis. Ils vont avoir des places pour Nadal Zverev, qui est le match de l'année.
Ça,
ils s'en foutent complètement et moi, j'y serai pas.
Un classique de Roland
Garros. Moi, je fais la promotion de ce sport. Alors que moi, on peut m'inviter. Et je joue en plus.
Là, c'est un message à la direction de la Fédération française de
tennis. Je bois pas beaucoup de champagne. Ouais, moi,
j'ai une relation que tu as avec la ministre des Sports. T'as pas deux places pour Roland Garros, Daniel, demain, franchement.
Mais moi, je demande pas, moi. C'est ça le problème.
Pourquoi? Nous aussi, on peut nous inviter. Et moi, j'ai rien contre le fait de manger aussi.
Hein. Ah, moi, non, mais toi, t'aimes pas le tennis. Tu vas pas aller faire ce que tu reproches aux autres.
Comment ça, j'aime pas le tennis?
Bon, arrête, Gilbert.
On aime le sport.
Moi la Fédé devrait me donner un passe 15N. La Fédé devrait me donner un passe 15N.
Oh tiens, j'ai un ami qui vient de m'envoyer un message qui m'invite demain.
Oh, ouais,
je te jure, regarde.
Tu vas n'importe quoi.
Ah, non, regarde.
Mais j'y crois pas une seconde.
Hein? C'est fait.
Mais faut voir ton message.
C'est fait.
Mais tu mens, mais rien.
Je salue mon ami Vincent. Mais...
Tu vas m'énerver en plus.
Ouais, mais c'est dommage, c'est qu'une seule place. C'est con, si j'en avais eu deux, je t'aurais emmené.
Quel duo.
Ilia est un spécialiste du football russe. Pourquoi Ilia est là? Et on est ravis de l'accueillir. Ilia, bonsoir.
Ilia.
Parce que le PSG s'intéresse donc à Safonov, gardien de Krasnodar. Alors vous savez que le championnat russe, il est un peu en blackout, enfin, ici dans l'Europe occidentale depuis quelque temps, parce que maintenant que depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, eh bien, il a été décidé de suspendre les clubs russes des coupes d'Europe. On ne suit plus le championnat. Même les applis, vous savez, les fameuses applis de résultats ont enlevé le championnat russe des résultats. Mais sachez que cette année, tout s'est joué en Russie. Sur l'ultime journée avec trois clubs qui auraient pu être champions, le Zénith, Krasnodar et le Dynamo Moscou, et c'est le Zénith qui a gagné, qui était champion pour un point à l'avance, et Krasnodar a fait une sacrée saison avec donc ce fameux gardien Safonov, Ilia.
Oui, tout à fait. C'est pas la première saison qu'il termine au club, et concrètement en Russie, c'est vraiment désormais le successeur d'Akinfeyev, en fait, que ce soit en sélection, en club, c'est le meilleur gardien russe actuellement.
Bon, et quel style de gardien c'est?
Assez classique, il est assez complet, il est bon, très 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 bon sur sa ligne. Il est très bon dans les sorties aériennes, en un contre.
Ah, meilleur dans les sorties aériennes que Donnarumma, donc?
Oui.
Il n'a pas de lunettes,
on peut dire ça. Après, il est un peu comme lui, son problème de jeu au pied, effectivement, qui est pas non plus, c'est un peu sa faiblesse, il doit un peu travailler sur ça dans le futur. Donc, si t'es un gardien bon au pied que le PSG voulait, ça sera pas ta Safonov.
Alors donc ça va pas alors.
Donc tu nous pointes du doigt le problème. C'est
donc
intéressant.
C'est mytho parce que s'il fallait qu'il y ait un autre gardien, d'abord je pense que Luis Enrique aurait été sollicité et lui pour son jeu il vend un bon au pied, donc ça colle pas l'histoire. Donc ça veut dire que c'est mytho cette histoire.
Apparemment il y a, je crois que c'est Fabrizio Romano qui a confirmé la nouvelle, donc ça a l'air bien engagé.
Pourquoi prendre un gardien si c'est pas pour avoir les atouts que demande Luis Enrique?
Pour être la doublure.
Bonne question. Après, je pense qu'il peut vraiment concurrencer Donnarumma. Pour moi, il a le potentiel pour devenir un peu comme Lunino Real, devancer Donnarumma sur le long terme. Il peut lui prendre sa place, pour moi.
Bon, c'est intéressant quand même d'avoir un gars de bon niveau derrière Donnarumma. Parce que là, Navas s'en va. T'as forcément besoin d'un... Bon, alors peut-être que Tenas a cette trempe-là, hein, j'en sais rien. Mais alors, Safonov, c'est aussi un gars qui a un look particulier.
Ouais, il a beaucoup changé, beaucoup évolué au cours du temps. Là, il ressemble un peu à, avec les cheveux longs, le petit boucle.
On dirait une sorte de Vedran Rougneux, non?
Voilà. Comment?
Un peu un Vedran Rougneux, je ne sais pas si tu te souviens du gardien.
Oui, c'est vrai.
Voilà.
C'est vrai.
Bon, bah, donc, toi, t'as aussi entendu ça, toi qui suis le football russe, que c'était dans les tuyaux, quoi.
Ouais. Ça a débuté en Russie, la rumeur, je crois, puis ça a été confirmé, bah, un peu maintenant par les sources plus à l'ouest, quoi. Donc, bah, après, c'est toujours. Je sais que pour les transferts de joueurs russes, il y a souvent beaucoup de rumeurs, mais avec le contexte de la guerre, ça ajoute. Moi, j'y croirais vraiment que quand il sera sous le maillot, quoi, parce que entre les transactions d'argent qui sont compliquées, choses comme ça.
Il est libre ou il y a un transfert sur lui ?
Comment ?
Il est libre ou il y a un transfert ?
Il y a un transfert de plus quasiment 20 millions, on parle. Donc,
Ah oui.
C'est bien, c'est intéressant d'injecter 20 millions dans le football russe en ce moment. C'est une bonne idée, diplomatiquement.
Après, le propriétaire du club est totalement indépendant de Poutine. Hein. C'est M. Galitsky, c'est un homme d'affaires qui s'est fait totalement indépendant du pouvoir, donc qui a créé le club de A à Z, qui est un des plus gros clubs formateurs de Russie. Et c'est quelqu'un qui est totalement indépendant. Donc, on finance pas la guerre en achetant un joueur à Krasnodar.
Bon.
C'est ça.
Et tu parlais de son niveau au pied. En fait, moi, apparemment, son problème, c'est qu'il a tendance à prendre un peu des risques. Genre, il va aller peut-être dribbler un gars ou un peu fantasque, quoi, en fait.
Oui, c'est ça.
Le gars que vous décrivez correspond absolument pas du tout à ce qu'on a besoin de PSG. Je ne comprends pas d'où cette news est sortie. C'est très curieux, mais bon.
Bah, écoute,
ouais, c'est vrai que je pense pas que Luis Enrique.
Je me souviens que l'After avait appelé un spécialiste, je l'appelle la Brésilia, qui avait décrypté le jeu de Beraldo avant qu'il signe, au moment où il était annoncé à Paris. Et quand il était assez inquiétant quand il décrivait Beraldo, franchement. Et puis Beraldo,
donc il avait eu raison,
est venu. Bah, je sais pas, Beraldo est venu, Beraldo a joué.
Il est déjà titulaire.
Beraldo est titulaire en finale. Donc, que ce Safonov est.
Et puis après tout, Luis Enrique a bien vu deux avant-centres dont il n'a que faire arriver. Il met 180 millions sur le banc. Voilà.
Et peut-être qu'il n'a pas son mot à dire, quoi.
Je sais pas, moi, il me semblait que c'était lui le boss et qu'il décidait de tout, mais visiblement non.
Iliam, merci pour toutes ces infos. On retient ce que tu as dit. Donc c'est pas c'est pas le mec qui a que des qualités, quoi. On est très bon sur la ligne. Bon. Mais déjà, s'il est bon dans les sorties, c'est déjà mieux que Donnarumma. Mais s'il fait pas les sorties étoiles de mer à la Donnarumma,
ça peut être un vrai concurrent pour Donnarumma, qui est pas. Enfin, quand je le vois, moi, je le trouve assez fébrile comme gardien. Donc.
Merci, Iliam.
Merci à vous.
Bonne soirée, à très bientôt pour reparler éventuellement de football russe. Dans un instant, Lens au programme, la fin des matchs également avec les drôles de l'âme tout à l'heure. Sachez que le Barça a marqué 2-1 pour Barcelone. On est dans le temps additionnel, 2-1 pour Barcelone à Séville. Les matchs sont terminés en Italie. Yann Crochet sera avec nous tout à l'heure. Il y a notamment eu 2-2 entre Vérone et l'Inter. 2-1 finalement pour Empoli face à la Roma. Défaite donc de la Roma dans ce match. On débriefe tout ça avec Johan dans quelques minutes.
RMC, l'After Foot.